Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Servane de Lermatheus, une médiéviste qui a travaillé au ministère du Travail, puis au ministère des Affaires Sociales, directrice de la communication de la Cité de la Musique à Paris. Elle s'engage auprès de Firmin Didot pour développer Chartres Sanctuaire du Monde, dont elle est présidente, et puis également du Centre international du vitrail, dont elle est vice-présidente. Elle est chevalier de la Légion d'honneur, officier des arts et lettres et du mairie. Un très beau parcours. Servane de Lermatheus, bonjour.
Bonjour Christiane Plain.
Alors, c'est pour la sauvegarde des vitraux de la future chapelle du trésor de la cathédrale de Chartres que je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Cette chapelle, c'est quelque chose de nouveau pour la cathédrale et pour les pèlerins qui vont venir la visiter et prier.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'histoire. Je crois que quand on visitera la partie lapidaire, les pierres, et la partie orfèvrerie paramatique, la paramatique, ce sont les tissus des ornements liturgiques, il y aura une prise de conscience de se dérouler sur des siècles, parce qu'avant la cathédrale gothique, il y a eu la cathédrale romane, la fameuse cathédrale de Fulbert, et de voir cette continuité, on va dire, du peuple de Dieu qui a trouvé à Chartres un ressourcement au fil des siècles. Et ces objets sont très parlants, parce qu'ils expriment la dévotion.
Bien sûr.
Et ils expriment aussi le travail des hommes, qui est très mis en valeur dans la cathédrale, parce qu'il y a beaucoup de vitraux et de sculptures qui parlent du travail de la main. Donc il y a ces deux niveaux, ce niveau spirituel et ce niveau très incarné des chefs-d'œuvre.
Oui, d'ailleurs, voilà. Le travail qu'on voit aussi dans les vitraux.
Je crois que c'est ce qui touche les donateurs particuliers, si
oui,
on peut en parler,
bien sûr.
Parce qu'en fait, nous sommes à 25 ans de la création de Chartres Sanctuaire du Monde, donc 25 ans de fidélité des donateurs, qui peut-être les enfants ont succédé aux parents dans certains cas, et je les connais. Cette soif extraordinaire que le don, qui parfois est très modeste, nous avons parfois des dons qui sont 10-15 euros.
Ah,
nous
oui.
avons aussi des dons, tout d'un coup, et la même personne aura des facilités une année suivante et enverra 500 ou 1000 euros, vous voyez. Mais toujours ce don...
Je veux dire que vous avez des fidèles.
Nous avons un noyau de fidèles...
Oui. Qui chaque année vont donner...
Ou qui ne pourront pas telle ou telle année, mais que nous gardons en mémoire et que nous... interrogeons l'année suivante. Mais il y a toujours un sens à ce don. Et ça, je m'en suis rendu compte de plus en plus parce qu'il y a peut-être l'agrément d'une déduction fiscale, puisque la loi, depuis 2003, je crois, la loi permet une déduction sur l'impôt sur le revenu d'un montant assez important, de 66% du don.
Oui.
Mais ça n'est pas le ressort principal. Franchement, le ressort principal, c'est soit l'amour de la beauté, qui se traduit à Chartres, soit un fond de dévotion qui n'est peut-être pas, qui se manifeste peut-être pas par la fréquentation des offices, mais qui est présente au cœur des gens et qui sont heureux de cette façon-là d'être reliés à un très grand sanctuaire. Ça peut être aussi un acte de mémoire des gens, je me souviens de donateurs de Terre-Neuve qui disaient « nous nous sommes mariés, nous sommes des Français de Terre-Neuve, mais nous nous sommes mariés en 1945 à Chartres ».
Ah oui.
Voilà, donc j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il y a une profonde... Le don est un acte financier, mais il y a une profonde humanité qui se cache derrière l'envoi de ces dons particuliers.
Oui, mais ça me paraît normal parce que quand on donne, c'est que on aime ce que ça représente.
Oui, bien sûr, ce qui se fait aussi dans le domaine social, n'est-ce pas?
Oui,
mais
oui.
Il y a un côté d'ailleurs social puisque la beauté est aussi doit être à la portée de tout le monde.
C'est
donc
ça.
C'est ce que nous essayons par nos documents et par le site internet de donner du sens à cette beauté et de l'expliquer.
Oui.
Alors, c'est peut-être pour cela que j'ai voulu vous parler du 20e livraison de notre lettre annuelle.
Oui, alors ça, j'aime beaucoup. Je suis très contente que vous en parliez parce que tous vos donateurs, déjà, vont recevoir cette lettre.
Ils ont reçu. Elle est partie.
Elle est
partie. La semaine dernière, je sais qu'elle est arrivée et elle est modernisée. Nous avons une graphiste chartraine qui nous aide, Hélène Dufay, et nous avons un de nos membres qui était journaliste à l'Écho, qui anime le comité de rédaction. Donc, on s'est un peu professionnalisé.
Oui, ça, c'est très bien.
Voilà. Alors, donc, il y a le comité de rédaction interne qui décide de la programmation, de l'utilisation des espaces, puisqu'il y a maintenant 6 pages. Et puis, nous faisons appel pour la deuxième année à des spécialistes qui apportent leurs compétences, leurs connaissances de la cathédrale aux lecteurs. Qui en donne de la substance. Alors cette année, c'est le très grand spécialiste des vitraux de Chartres, Jean-Paul de Ramble, qui d'ailleurs enseigne aussi à l'école du patrimoine et du vitrail pour certains cours sur l'art contemporain du vitrail, mais qui anime aussi des séances de visite de vitraux dans la cathédrale sur réservation. Donc il a fait un très bel article.
C'est bien que vous disiez qu'il y a aussi des cours. Parce que ça, c'est important pour mieux comprendre les vitraux, de suivre des cours qui sont donnés au Centre du Vitrail.
Voilà, vous savez, il y a une complémentarité entre nos différentes associations, toutes fondées par Pierre Firmin Didot, qui fut vraiment un précurseur.
Oui, avec vous, il faut l'ajouter.
J'ai pu cheminer avec lui depuis 1993, donc ça fait un bon nombre d'années.
Et maintenant, vous faites ça toute seule, et c'est vraiment remarquable.
Ce qui est remarquable, c'est le mouvement, c'est l'équipe, c'est la communauté qui se crée autour d'eux. Ce sont les responsables communication des entreprises mécènes. Vous savez, c'est une sorte de cercle concentrique, c'est une énergie groupée, tout seul, je ne serais rien. Voilà. Non, c'est vraiment cela qui compte, c'est cette espèce de...
Oui, mais vous avez ce pouvoir d'entraîner aussi.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai bonheur et surtout un grand devoir. Alors, en fait, Jean-Paul de Rambe rappelle cette théologie de la lumière que l'abbé Sugère a formalisée dans de très beaux textes et qui explique pourquoi il fallait rendre, pour rester fidèle au fondateur, au bâtisseur à l'origine de l'Église, de chasser cette obscurité, retrouver la lumière de la construction des 75 verrières. Bon, j'invite à lire cet article. Et il y a quelque chose qui m'a bien amusée, qui amusera aussi les lecteurs, c'est qu'en fait, dans les vitraux, il y a le cortège des saints, mais aussi des non-saints.
Ah
Parce qu'il y a toujours un peu d'humour, et en fait, les membres de l'Église, des chrétiens, ne sont pas toujours
des saints.
Désignés comme des saints. Alors, il y a notamment un grand souverain qui fut Charlemagne, qui a droit à une magnifique verrière dans le déambulatoire. Et Dieu sait que Charlemagne ne fut pas forcément un modèle, même s'il fut un très grand souverain. Voilà, alors nous avons cet article. Nous avons aussi une interview. Il parle peu souvent, mais il vient d'arriver, d'Emmanuel Blondeau, qui a succédé à l'abbé Aubert et qui est actuellement recteur de la cathédrale. Et nous l'avons fait parler. C'est Philippe Cavard qui l'a interviewé, un de nos membres.
Et il est très présent.
Il est très présent et il apporte sa touche personnelle dans ces pages. Et puis alors, il y a le regard sur la chapelle Saint-Pierre. Alors,
Peut-être ce serait bien d'en parler, parce que vous avez fait une émission, mais peut-être tous nos auditeurs ne l'auront pas entendu, et j'aimerais bien que vous reveniez sur cette chapelle,
trésor. Alors, j'insiste, puisqu'on parle de la lettre, cette page-là, elle est validée par les services de la DRAC, c'est-à-dire que nous parlons sous contrôle des spécialistes. Et ce qui est merveilleux dans cette chapelle, c'est qu'on voit apparaître la pré-Renaissance à Chartres.
Ah oui.
Parce que quand vous allez dans le déambulatoire ou la nef, vous avez des vitraux du XIIIe. Là, nous sommes au XIVe. L'intérêt de cette chapelle, c'est son histoire. Parce qu'au fond, c'était la chapelle du chapitre. Et Dieu sait que le chapitre entourait l'évêque et a permis la réalisation de cette superbe cathédrale. Et donc, le collège des chanoines est peut-être un peu méconnu, et à travers la visite de cette chapelle, on prend conscience de leur rôle et de leur présence. Voilà.
Oui, c'est ça.
Alors, nos donateurs, parlons-en. Actuellement, nous diffusons cette lettre à 4000 exemplaires.
Ah oui, quand même.
À nos donateurs, bien sûr, particuliers, et aussi à ceux qui entendent parler de ce que nous faisons. Et alors, on leur dit, mais écoutez, lisez.
Oui, voilà.
Voilà. Et puis, il y a un bulletin de générosité qui est joint et qui permet, nous recevons des dons au fil de l'année selon le.
Et vous avez de grandes sociétés qui vous aident
difficile.
Vraiment...
Il est difficile actuellement d'obtenir du mécénat des grandes sociétés pour 1000 raisons, c'est qu'elles sont très, très sollicitées.
Oui, bien
voilà.
sûr.
Et peut-être que nous n'avons pas non plus un savoir-faire suffisant, mais nous avons 2 ou 3 grands donateurs institutionnels.
Oui.
Et je ne peux pas le révéler aujourd'hui, mais je pense que les 2/3 de la restauration des vitraux de la chapelle Saint-Pierre est assurée et que nous en aurons confirmation.
Oui, ça c'est...
Fin mars, d'une grande fondation parisienne, mais qui a sa filiale à Chartres.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Servane de l'Air Mathéus et elle nous expliquait comment sensibiliser les donateurs, les mécènes. Alors, justement, vous évoquiez aussi de nombreuses fondations, mais aussi des dons très, très humbles, je dirais.
Oui, c'est cela.
Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a l'impression que dans Chartres et dans Eure-et-Loir, tout le monde est passionné par cette cathédrale, d'ailleurs. Depuis qu'elle est refaite, il y a, j'imagine, de nombreux visiteurs qui viennent souvent voir où en sont les travaux.
Oui, c'est devenu presque un but de déplacement, mais non seulement pour les gens de Chartres et de Eure-et-Loir, mais bien au-delà, parce qu'il y a des chartrains de cœur aux quatre coins de l'Hexagone et à l'étranger, y compris aux États-Unis, mais ailleurs. Alors, est-ce que les Japonais comprennent vraiment l'iconographie? Je ne sais pas, mais il y a un rayonnement mondial de Chartres.
Oui, c'est ça. Il faut le dire parce que
Paris et Chartres, voilà. Quand on parle de la France, on entend ces deux mots.
Mais c'est ça, de Paris, ils viennent à Chartres.
Voilà. Alors, peut-être ce qui attire beaucoup actuellement l'intérêt des gens, c'est un renouveau d'intérêt, c'est que cette chapelle Saint-Pierre montre cet art du pré-Renaissance. Mmh. Il y avait des ateliers de maître verrier, donc au XIVe. Et les vitraux incarnent en quelque sorte des dessins peu connus, comme ce fameux Saint-Piat.
Voilà, alors parlez-nous de Saint-Piat.
Ben, Saint-Piat est au fond un de ses premiers évêques confronté à l'administration romaine du nord de la France et condamné à mort pour avoir créé des troubles. Donc le voilà décapité, malheureusement. Mmh. Ça se faisait déjà à l'époque.
Oui, voilà. Oui.
Et la sainteté de sa vie fait qu'il est connu jusqu'à Chartres. Vous savez qu'il y a un village où le train s'arrête qui s'appelle Saint-Piat.
Ah bon ?
Quand vous prenez le train de Chartres à Paris, vous avez un arrêt à Saint-Piat.
Ah voilà, alors maintenant on pourra dire une prière en passant.
Voilà. Alors, vous avez d'autres saints qui sont représentés au-dessus de l'autel. Vous avez notamment Sainte Thècle, qui vivait au 1er siècle.
Alors, qui était Sainte Thècle ?
Elle fut donc convertie par Saint Paul. Elle rompt ses fiançailles.
Oui.
Et elle l'accompagne en Turquie, notamment à Iconium, qu'on appelle Konya aujourd'hui. Elle survit à des tentatives de mise à mort. C'est un peu comme une Sainte Blandine, mais bien puisqu'on est au 1er siècle. Le feu, les fauves, et elle va même jusqu'à se baptiser elle-même. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est assez touchant parce qu'elle croit sa dernière heure arrivée.
Ah oui, voilà. En cas de danger.
Voilà, et il y a des taureaux qui arrivent, etc. Elle survit et elle vivra jusqu'à 90 ans. Et donc, elle exerce un véritable rayonnement puisque c'était une femme et que dans ce monde un peu machiste, peut-être, elle a touché beaucoup les populations. Et donc, il y a des monastères qui lui sont consacrés, des églises et des pères de l'église qui parlent d'elle comme un modèle.
Bon. Voyez. Donc, voilà. Alors, comment allez-vous sensibiliser les gens pour les amener à donner pour la cathédrale ?
Eh bien, écoutez, d'une part, on leur parle sur le site de l'association, www.chartres-csm.org.
Oui, vous pouvez le répéter, peut-être.
Je répète, www.chartres-csm.org. Et sur ce site, il y a beaucoup d'informations qui nous espérons et d'actualité qui sont de nature à renseigner les gens. Et je crois aussi beaucoup avec mes amis de l'association à l'effet de la rencontre.
Ça, c'est important.
Parce que il se passe quelque chose, le message passe quand on se voit, quand on échange. Donc, cette année 2017, nous avons déjà deux rendez-vous à proposer. Le rendez-vous le plus lointain est le 15 septembre prochain.
Alors, retenez, chers auditeurs, le 15 septembre prochain.
Et 15 septembre prochain, la cathédrale va s'ouvrir pour un concert de cuivre magnifique organisé par l'association des trompes de France. En fait, ce sont des trompes de chasse, mais ce sont des gens qui sont dans la musique et qui préparent un programme. Il y a plusieurs formations, un programme très important dont je pourrais vous donner les détails cet été.
Bon, alors, reviendrez
et
cet été.
Nous avons Stéphane Bern qui s'attache de plus en plus au patrimoine d'Eure-et-Loir, qui sera là pour commenter, animer et accueillir tous ceux qui viendront. Alors, ce sera gratuit, donc vraiment, ça fait plaisir, grâce à cette association, de pouvoir accueillir tout le monde. Il y a 3000 places dans la cathédrale.
Oui, donc déjà, si chacun donne quelque chose d'un peu important.
Alors, nous ferons, nous passerons dans les rangs en demandant une participation. Oui. Si certaines personnes veulent déjà retenir cette date, qu'ils nous envoient un courriel. Alors, je donne le courriel à chartrescsm, attaché, chartres-du-6-csm.org. chartrescsm@chartres-du-6-csm.org. Alors, donc, 15 septembre, 20h30.
Oui.
Et auparavant, nous avons la chance d'avoir un grand historien, qui est Michel Pastoureau, qui fut professeur pendant 35 ans à l'École des hautes études, qui fait partie de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qui a enseigné pendant toutes ces années la symbolique de l'art occidental, qui continue à l'École du Louvre. Alors, ce qui est remarquable, vous avez raison Christiane, c'est que depuis 2002, il publie un livre thématique sur les couleurs. Il a commencé par le bleu en 2002, ensuite un beau livre sur le noir, qui est une couleur, le vert, et cette année, le rouge.
Et il viendra parler du rouge alors.
Alors, il présentera le rouge qui était la couleur reine et il faudra s'inscrire parce que ce sera le 2 juillet et là, il y aura une participation de 75 euros pour une rencontre dans une propriété d'Eure-et-Loir qui permettra un pique-nique et ensuite participer à la conférence. Mais le nombre sera limité à 100 personnes, donc nous prendrons dans l'ordre d'arrivée les réservations.
Très bien. Donc, les premiers seront invités.
Absolument. Mais nous sommes honorés d'une rencontre avec un grand historien.
Bien sûr. Surtout que Pastoureau est très connu.
Alors, on parle des bleus de Chartres.
Oui.
Mais il n'y aurait pas de bleus sans les rouges.
Exactement.
Qui les mettent en valeur.
Alors, je sais aussi qu'il y a beaucoup de visites spéciales, donateurs, par exemple.
Voilà. Alors, bien sûr, le service accueil et visite assure des visites thématiques remarquables de la cathédrale, mais nous avons l'autorisation d'organiser des visites pour les donateurs et mécènes pour leur montrer les vitraux avant restauration, après restauration, leur expliquer le processus, leur expliquer la thématique, et c'est assez apprécié. D'autant qu'on leur ouvre parfois des espaces qui sont réservés.
Et si nous avons la chance. Alors là, on veut en savoir plus sur les espaces réservés. Qu'est-ce que ça peut être?
Ça veut dire qu'il y a un architecte de nos amis qui accompagne le groupe et qui permet d'accéder aux étages.
Alors, aux étages, il y a quoi?
Eh bien, on peut se promener dans les triforiums. On peut accéder à l'arrière des grandes orgues, dont on ne parle pas là, mais qui sont quand même aussi des merveilles de Chartres. On peut monter dans la tour nord. Et surtout, on peut monter dans les superstructures de la voûte, de la charpente. Cette charpente métallique faite par les élèves d'Eiffel. Et quand on est là-haut, on a l'impression d'être dans un engin spatial.
Ah oui.
C'est fabuleux, voilà.
Là, vous la connaissez par cœur,
j'ai pu y aller, je me rappelle d'une certaine émotion parce qu'on saisit l'ampleur, la force, presque les tensions du bâtiment.
Ah oui.
Alors s'il fait beau temps, il y a aussi un parcours à l'extérieur de ces galeries qui bordent les toits. Et quand vous êtes là-haut, vous regardez les voitures, vous avez l'impression de voir des Dinky Toys.
Ah oui, ça doit être très émouvant.
Très émouvant. Voilà. Et on découvre qu'il y a des salles, puisque dans le long du triforium, et il y avait des salles voûtées où habitaient même des ermites. Et il y a aussi des opercules formés par des pierres qui permettaient au Moyen-Âge de lancer des fleurs, des pétales de fleurs pendant les offices. Donc en fait, voilà, je vous décris une visite de rêve.
Oui, alors
il faut s'inscrire, il faut réserver, il faut qu'on puisse organiser les choses, parce qu'évidemment, c'est lié à une sorte de privilège, comme disent les Américains, privilège pour les mécènes, pour les donateurs.
Très bien. Aussi, je crois qu'on peut recevoir des DVD qui permettent de mieux connaître la cathédrale. Je pense au film qui a été fait récemment.
Voilà, c'est Chartres, le titre du film qui a été diffusé sur France 3. Espérons que France 3 recommencera cette diffusion. Chartres, la lumière retrouvée. Oui. La productrice, c'est Anne Savalli. Et Anne Savalli a pu accéder à toutes les réunions de chantier depuis 3 ans. Donc elle a filmé au plus près les gestes des restaurateurs, justement dans les voûtes, à l'extérieur. Elle a saisi vraiment les moments clés de la restauration et également les débats qui se faisaient autour de telle ou telle décision. Donc on pénètre complètement cette histoire qui se poursuit encore des plus grands spécialistes au service du plus beau monument, de la plus belle cathédrale du monde, disons-le.
Ah oui, 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 ne soyons pas modestes. Et alors il y a aussi des dialogues qui peuvent s'instaurer par courriel.
Alors, par courriel, nous pouvons répondre aux questions.
Oui.
Et ces questions, nous pouvons, s'il y a des questions un peu pointues, interroger les spécialistes pour répondre, bien sûr.
Voilà. Donc, on peut très bien, en donnant, recevoir également.
Mais oui, c'est la notion de l'échange. C'est ça. Et c'est une notion juste, je crois.
Mais oui, bien sûr. Alors, nos auditeurs, vous nous redonnez les grandes dates où ils pourront se manifester.
Écoutez, d'abord, ils seront sûrement invités par l'État à une réunion d'information sur les travaux. Ça, ouais. Il y a une chargée de communication qui me l'assure. Donc, ouais. on inscrira sur le site internet cette information qui se fera dans la cathédrale.
Ouais.
Je ne peux pas dire quand, mais elle existera. Ouais. Puis il y aura le 2 juillet la rencontre avec Monsieur Pastureau, mais sur inscription.
Oui.
Voilà. Le 15 septembre, la cathédrale s'ouvre pour un grand concert de cuivre. Et puis rien n'interdit de penser qu'il n'y ait pas des projections privées du film, puisque nous détenons le DVD.
Voilà.
Et nous envisageons des projections sur demande. Si on peut réunir une trentaine de personnes, on fera des projections un peu commentées de cet
Donc
outil.
En fait, vous avez beaucoup de propositions à faire aux donateurs qui vont se manifester, j'en suis certaine.
Mais écoutez, nous sommes surtout désireux de les remercier.
Oui. Alors, je voudrais encore une fois que vous nous disiez combien vous estimez pouvoir recevoir justement pour aider à la réhabilitation de ces vitraux.
Alors pour 2017, nous nous sommes engagés, on a pris un risque, il faut toujours prendre des risques, à verser 93 000 euros à l'État sur appel du Trésor, cette fois-ci des services fiscaux,
oui.
Voilà, pour le lot vitrail. Bon, mais je tiens à dire que le moindre des dons compte, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Voilà. Donc, il faut arriver à cette somme, c'est quand même...
Absolument.
Alors, vous pensez être aidé par une fondation ?
Nous avons très bonnes perspectives qui vont se dénouer, qui vont se clôturer par, je pense, une réponse favorable fin mars.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Je pense que la cathédrale va pouvoir encore devenir plus belle, si c'est possible. Et ceci grâce à vous, grâce à Chartres Sanctuaire du Monde.
Oui, et grâce à tous ceux qui concourent à cette belle œuvre.
Merci, Servane de l'Air Mathéus. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.